mother's calm and perfection. I find it oppressive.
Soothing.
Yeah, but I didn't realize, you know, writing here, how can I not feel like a loser? I'm even afraid to sit at a desk.
Right outside then.
A lot of people come here to work. Students, writers, designers.
No one's expecting persona.
Yeah, well, thank God for that.
Ce soir, notre invité est Mia Hansen-Love pour son film qui sera présenté à Cannes. Il est intitulé Bergman Island. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera avec Daft Punk, One More Time. One more time. Faisiez-vous, Mia, dans la rue, quand, adolescente, quelqu'un vous a arrêté pour faire du cinéma? Vous sortiez de l'école?
Non, c'était pas dans la rue, c'était un cours de théâtre au lycée où j'étais. Ma prof est venue me voir en me disant qu'il y avait un... Enfin, elle est venue nous voir, on était un groupe de... Une bande de filles, on répétait Tchekhov, les trois sœurs. Et est venue nous voir en disant qu'il y avait un casting. On cherchait des jeunes filles pour jouer dans un film de Livia Sayas. Je savais pas du tout qui c'était. Et elle m'a dit, elle nous a dit, vous pouvez y aller, je crois que c'est pas mal. Et donc... Donc j'y ai été un peu tremblante, j'avais pas particulièrement d'ambition d'être actrice, mais j'étais quand même très très curieuse, et c'était un moment aussi de l'adolescence particulièrement difficile pour moi, et le cinéma m'est tout de suite apparu comme une sorte de possible échappatoire par rapport au tourment de l'adolescence.
Et que vouliez-vous faire de votre vie à cette époque-là ?
Je ne savais pas du tout. Mais je savais ce que je ne voulais pas faire, ce qui est d'ailleurs une réplique de l'héroïne de mon premier film, et pour cause, je voulais pas être prof. Je voulais pas être prof parce que mes deux parents étaient profs, et bien que j'avais beaucoup d'admiration pour eux, et c'est toujours le cas, et bien qu'ils m'aient transmis énormément, je trouvais leur vie très difficile quand même. Je trouvais que ils travaillaient tout le temps. Certes, ils avaient beaucoup de vacances, mais ils les passaient à travailler le jour, le soir. Et à la fois, j'ai très vite embrassé, enfin, les certaines valeurs qui transmises par mes parents à travers la philo, et en même temps, j'avais un désir d'aventure quand même, je crois.
Vous avez fait d'ailleurs un merveilleux film de l'histoire de votre mère. C'est pas forcément un dévoilement autobiographique, mais qui, à travers l'incarnation d'Isabelle Huppert, pouvait avoir un écho avec la pratique de l'enseignement philosophique et ses conséquences.
Oui, j'ai fait ce film un peu sans le vouloir. Curieusement, c'est un film qui s'est imposé à moi, que j'ai senti devoir faire à un moment donné, que j'ai commencé à écrire avec une certaine réticence, parce que j'avais peur que le sujet soit douloureux, que le film soit sombre et qu'il me ramène à mes propres angoisses notamment sur le destin des femmes, une certaine solitude. Et en fait, c'est un film qui a été incroyablement joyeux et libérateur pour moi, et qui doit de fait beaucoup à ma mère, bien que le film soit pas complètement littéralement autobiographique. Aucun de mes films ne l'est. Il y a une énergie, un humour, une certaine intelligence dans le personnage qui est beaucoup inspiré par ses qualités chez ma mère, je crois.
Donc vous venez de le dire, aussi bien L'Avenir que Bergman Island, ce nouveau film qui va être présenté donc dans très peu de temps au Festival de Cannes en compétition officielle, aussi bien Eden, aussi bien Tout est pardonné, ou Un amour de jeunesse. Tout est pardonné, c'était le premier film. Jamais votre écriture scénaristique n'épouse finalement le dévoilement autobiographique, mais cependant, il flirte avec. Et donc, à travers Tout est pardonné, il y a peut-être aussi des pistes de compréhension pour éclairer ce qui, tout d'un coup, a allumé votre imaginaire quand vous êtes tombé par hasard, à cause ou grâce à un casting sauvage, dans le monde du cinéma. Il vous est apparu comment, ce monde du cinéma ? Comme celui du réel ou comme un monde de fiction ?
Eh bien, les deux à la fois. La fiction m'est apparue comme une façon de s'emparer du réel qui en même temps vous en libère. Et je crois que cette thématique, enfin cette réflexion sur l'articulation de la fiction et de la réalité, de la façon dont la fiction, tout en se confrontant au réel et parfois même avec une grande lucidité et donc aussi à la cruauté du réel, comment la fiction en même temps peut vous en émanciper, peut être réparatrice, peut vous permettre de vous échapper, de sortir par le haut par rapport à ce qui peut être douloureux dans le réel, mais pas en mentant, pas en contournant, justement en l'affrontant. Donc il y a une sorte de, pour moi il y a toujours une sorte de rapport un peu dialectique comme ça entre la fiction et le réel, où à la fois mes films cherchent toujours à aller vers la lumière, mes films sont toujours une quête, mes films ne peuvent pas refermer le réel sur lui-même.
Vos films n'ont pas de fin.
Mes films, voilà, on, ont des fins très souvent ambivalentes, ambiguës. En tout cas, mes films n'ont ni des fins tragiques, ni des happy ends. Mes films sont souvent ouverts, enfin vers l'avenir, je crois. Et en même temps, je cherche vraiment à comprendre. En faisant des films, je cherche à mieux comprendre le monde qui m'entoure, à mieux comprendre les relations humaines. Je cherche à regarder quand même les choses en face, mais d'une manière qui me permette en même temps de m'élever spirituellement, intellectuellement, artistiquement, enfin quel que soit le mot qu'on emploie.
Nous allons écouter la voix de Roland Barthes qui va parler de la solitude dans Le sentiment amoureux. C'était au micro de Bernard Pivot et c'est une archive INA du 29 avril 1977.
Ça vous paraît peut-être paradoxal puisqu'en oui. réalité l'amour-passion donne lieu à une très grande quantité de productions littéraires et artistiques, à des œuvres, à des romans, à des films, à des chansons. Hein. Mais je dirais que malgré tout, il y a une solitude de l'amour-passion pour deux raisons. La première, c'est que je distinguerai, c'est peut-être un thème qui reviendra entre nous d'ailleurs, je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société, en quelque sorte, qui se délègue à ses romanciers, d'ailleurs pour notre plus grand plaisir, ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même souvent, même s'il est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit. Ça, c'est une première raison, enfin, de la solitude du sentiment amoureux, du discours amoureux. Je distingue bien entre discours et histoire. Et la seconde raison de cette solitude, que je postule, que je suppose, que je constate, c'est que dans l'époque actuelle, disons, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, il faut bien le dire, disons en gros, il n'est plus à la mode. Il a probablement une grande audience populaire, mais il n'est plus à la mode, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par les grands langages théoriques ou réflexifs ou idéologiques que la modernité a produit. Pas pour citer des systèmes langagiers très connus, je dirais que ni le marxisme, ni même la psychanalyse, si vous voulez, ne prennent en charge ce sentiment amoureux. Ce qui fait que si on a affaire à un sujet amoureux qui a une certaine teinture de culture intellectuelle, eh bien, ce sujet-là, s'il lui advient de tomber amoureux, va se trouver extrêmement solitaire. Parce qu'il essaiera, comme il souffre, il essaiera de s'appuyer sur un langage, une théorie qui l'aide, qui le prenne en charge, et dans l'époque actuelle, il ne trouvera rien. S'il s'agissait d'affirmer, je dirais, quelque chose comme une perversion ou une sexualité, à ce moment-là, il trouvera effectivement un langage théorique, n'est-ce pas, depuis 20 ans, qui l'aidera à se comprendre et à s'affirmer. Mais s'il lui advient d'être amoureux comme on l'était du temps de Werther, eh bien à ce moment-là, personne autour de lui ne répond. Sauf justement cette culture populaire, dans la mesure d'ailleurs où elle est coupée du langage intellectuel. Oui,
alors, cette solitude dans Le sentiment amoureux, on peut dire que c'est une thématique quasi obsessionnelle de votre cinéma. Depuis le début, Mia Hansen-Love, alors que vous êtes une jeune cinéaste, vous avez déjà à l'actif plusieurs films, et à chacun des films, justement, il y a pas forcément une rupture amoureuse, mais en tout cas, il y a la perception, pour nous spectatrices et spectateurs, de la solitude du sentiment amoureux pour soi, qu'est-ce qu'on en fait quand on se retrouve seul ou quand on espère tomber amoureux ou quand on espère vivre avec la personne dont on est tombé amoureux. Est-ce que solitude et état amoureux, ça va ensemble?
Je me rendais pas compte, enfin, j'ai pas forcément conscience que c'était aussi présent, mais vous avez sans doute raison, ça fait certainement partie des thèmes qui reviennent dans tous mes films, de même que la vocation, mais je crois que quand on fait des films très très personnels, comme c'est mon cas, on a tendance à revenir aussi vers des choses qui ont à voir avec l'enfance ou l'adolescence, et puisque vous parliez tout à l'heure de la façon dont j'ai découvert le cinéma, j'ai découvert découvert le cinéma à un moment de grande solitude et de détresse amoureuse qui m'a énormément marqué pour la vie, je crois. Et en même temps, c'est cette solitude qui finalement m'a conduite au cinéma, je crois. Enfin, ce sentiment de solitude ou cette difficulté à faire le deuil d'un premier amour qui m'a hantée pendant des années, je crois que c'est aussi ça qui finalement m'a donné aussi une détermination, une force, une volonté pour faire des films qui devaient être pour moi une manière de trouver du sens à la vie, de grandir, de me reconstruire aussi à certains moments. Donc il y a toujours eu pour moi ce lien organique profond entre le sentiment amoureux et y compris la solitude dont vous parlez et l'acte créatif finalement et jusqu'à mon dernier film, je crois que ce thème travaille tous les films que je fais.
Alors vous n'êtes pas la seule à franchir le pas du rôle d'actrice à passer au rôle de cinéaste et de metteuse en scène. Cet été au Festival de Cannes, on voit que le phénomène prend de l'ampleur. C'est d'ailleurs intéressant que des filles de votre génération prennent le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir de la caméra, le pouvoir de dire je, le pouvoir d'être de l'autre côté du miroir. Il y a Sandrine Kimberlin qui va présenter son film, il y a Charlotte Gainsbourg qui passe de l'autre côté avec sa mère. Et vous, je voulais savoir, parce que je me souviens très bien de votre présence en tant qu'actrice dans les films d'Olivier Assayas, une présence assez singulière, quelqu'un d'assez sauvage, quelqu'un qu'on pouvait pas attraper tellement, parce que vous aviez une vivacité à la fois corporelle et un côté très timide. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous quand vous avez décidé d'aller de l'autre côté et de prendre la caméra ?
Alors en fait, je crois que ce qui est un peu différent quand même chez moi par rapport aux comédiennes que vous citiez, c'est que je n'ai jamais été, en tout cas je me suis jamais vécue comme vraiment comédienne. J'ai eu la chance de jouer dans ces films très jeune, mais je suis jamais vraiment devenue professionnelle. C'est toujours été très très amateur. Et puis je n'ai joué concrètement que dans deux films. Et encore, la deuxième fois, c'était vraiment un tout petit rôle, le seul vrai rôle, enfin je veux dire, qui m'a fait vraiment vivre un peu l'expérience du tournage. C'était celui d'enfant ou début septembre où j'avais 17 ans et j'étais quand même terrorisée. Enfin, donc je me suis jamais retrouvée en
mais
tout
cas. Mais
vous
auriez pu continuer et vous
je
dire ben
pas.
Voilà, je deviens actrice.
Je crois pas parce que j'avais vraiment la trouille. J'étais vraiment pas à l'aise devant la caméra et c'est ce qui me différencie des comédiennes que vous citez qui font des grandes carrières d'actrice. Moi, très vite, c'était clair que ce serait pas ça et qu'il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, Olivier Assayas me l'avait dit lui-même très vite. Enfin, quand on en avait parlé, que il peut y avoir quelque chose qu'on a à 16 ans, une grâce, une sorte d'évidence devant la caméra, un naturel, et que cette chose-là, soit elle perdure, elle se confirme, elle s'affirme, soit elle disparaît. Et sincèrement, moi, je pense que très, très vite, elle a disparu. En tout cas, j'ai fait un peu de théâtre dans un conservatoire municipal pendant un an et demi, puis j'ai arrêté parce que j'étais terrorisée à l'idée de remonter sur les planches, le regard des autres sur moi, en particulier sur mon corps, la façon qu'ils avaient de parfois certains professeurs de vous parler de votre corps et de vos attitudes était une chose qui me mettait très mal à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai quand même très vite pris conscience que j'avais finalement plus de plaisir et d'aisance à être dans le noir, dans les fauteuils, à regarder les autres qu'à moi-même m'exposer. Et j'ai fait un premier court-métrage sans trop savoir si j'allais faire des films, enfin sans avoir forcément beaucoup d'idées derrière la tête, mais j'ai fait un premier court-métrage comme ça, de façon impromptue, à 21 ans. Et alors là, ça a été quand même une évidence qu'à travers les comédiens, je pouvais m'exprimer finalement beaucoup plus librement et que j'avais besoin du corps des autres, de la voix des comédiens, de leur présence, que j'avais besoin de ce transfert-là, de cette transition-là entre ce que j'avais à dire et l'expression finale, enfin que c'était que comme ça que je pouvais trouver une expression qui me paraisse juste. Et ça a été vraiment fulgurant, enfin vraiment dès le premier plan que j'ai fait sur en faisant mon premier court-métrage avec trois comédiens, c'était ah oui, bah c'est ça, là je suis à ma place. Et tout à coup, toute la timidité que j'avais comme comédienne ressentie insurmontable, toute cette timidité s'est évanouie et je me suis tout de suite trouvée très à l'aise derrière la caméra sur un plateau.
Donc le cinéma comme évidence, vous n'avez pas appris le cinéma, donc ça s'apprend peut-être pas le cinéma.
En tout cas, je crois qu'il n'y a pas une école. Je pense qu'il y a autant d'écoles que de cinéastes. Et c'est vrai que moi, je revendique le fait d'être une autodidacte pour ce qui est du métier de cinéaste. J'ai fait des études, mais j'ai fait des études d'allemand sans aucun rapport avec le cinéma. Et les films, j'ai appris à les faire en les faisant. Quand j'ai fait mon premier long métrage, je savais vraiment à peine ce qu'était un découpage de film. Et alors, je ne sais pas si c'était par orgueil ou pour des raisons meilleures, mais en tout cas, je me suis toujours refusée. J'ai toujours refusé d'imiter le style des cinéastes, et notamment des cinéastes que j'admirais. Enfin, je pouvais voir beaucoup de films et les aimer et les admirer sans pour autant chercher à forcément comprendre la façon dont ils étaient fabriqués, parce que je tenais absolument, et je pense que ça c'est peut-être aussi un truc qui vient de mon éducation, mais apprendre par moi-même. J'ai grandi avec l'idée qu'il faut penser par soi-même. C'est vraiment une chose que mes parents m'ont martelé toute mon enfance, que la philosophie c'était apprendre à penser par soi-même. Et du coup, j'ai appliqué presque scolairement cette philosophie en faisant des films, et j'ai vraiment voulu apprendre par moi-même à faire des films, à trouver mon propre langage, qu'il s'agisse du scénario, de la mise en scène, du découpage. Et donc, quand j'ai fait mon premier film, j'avais une grammaire très 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 limitée, pauvre, mais en même temps j'ai essayé de faire de cette pauvreté ou de cette simplicité peut-être une force qui permettait de transmettre une émotion d'autant plus grande. Et puis après, je crois que mon langage en termes de mise en scène s'est affiné film après film grâce à mes collaborateurs, à des personnes qui d'ailleurs apprenaient elles aussi souvent en même temps que moi. Et j'ai beaucoup aimé apprendre de cette façon-là, vraiment en faisant les films, et que ce soit mon regard et les histoires que j'avais à raconter qui me guident, et pas pas des principes préétablis, pas des ambitions techniques préexistantes aux scènes que j'avais à filmer.
Nous allons écouter la voix de Marguerite Duras, qui va s'exprimer sur la théâtralité du cinéma. C'est une archivina du 9 avril 1966, et c'était au micro de Roger Régent.
Ça m'intéresse pour cette raison-là, et parce qu'un des problèmes qui m'intéresse au cinéma, c'est le dialogue. C'est précisément la théâtralité du cinéma. Ce problème n'a pas été résolu.
C'est curieux parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez frappé par les visages des personnages et que leur voix était très souvent décevante.
Leurs paroles. Parce que l'image s'attache au visage, elle le magnifie. N'est-ce pas ? Il y a une magnificence du visage de l'acteur au cinéma. Et lorsque ce visage se met à parler, il y a une sorte de divorce. Ce n'est pas résolu. L'accord n'est pas fait entre l'image et la parole. C'est un des problèmes qui m'intéresse. J'ai toujours souffert quand un héros se met à parler. Je crois que ce sont des questions techniques, tout simplement. Le dosage n'est pas fait entre l'image et la voix. On lui voit trop, on ne les entend pas assez, il y a quelque chose comme un équilibre à trouver. C'est ce qui m'intéresse dans le dialogue de la musica.
Alors, cette théâtralité du cinéma qui existe dans certains films de Marguerite Duras, pas dans tous d'ailleurs, est-ce que vous la revendiquez ? Comment vous pourriez vous exprimer à propos de la notion de personnage par rapport aux personnes, puisqu'on le disait tout à l'heure, tous vos films sont des films empreints d'une grande émotion, empreints même d'une grande sentimentalité, et pour moi c'est un sentiment positif, ils racontent des histoires, et nous pouvons nous identifier aux personnages. Est-ce que il faut qu'un film, comme dans Bergman Island, qui va être présenté donc dans quelques jours au Festival de Cannes, est-ce qu'il faut qu'un film présente des pistes de crédibilité ou de théâtralité ?
De théâtralité, je ne sais pas, mais je suis à la recherche, quand je tourne, d'un sentiment de vérité. Ce sentiment, évidemment, est extrêmement subjectif, mais je crois avoir une certaine musique en tête qui préexiste au film et dont le film va être une sorte de traduction, et sa traduction va passer par les comédiens, par leur interprétation. Après, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas, enfin, toute la tension, je dirais, d'un tournage est là, on ne peut pas non plus plaquer sur un jeu, sur un interprète de façon trop rigide, un dialogue qui ne conviendrait pas, que l'acteur ne se sentirait pas de dire de cette façon-là. Et donc, en fait, j'ai sentiment, enfin, je crois que toute la difficulté, la délicatesse, enfin, d'un tournage consiste à trouver le juste équilibre entre entre cette musique que vous avez en tête et dont vous tentez de vous rapprocher, et en même temps l'écoute nécessaire, l'écoute que vous devez avoir par rapport à la musique propre aux acteurs, puisqu'ils viennent avec leur présence, avec leur façon de parler, leurs intonations, leur vitesse ou leur lenteur qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément exactement à la musique préexistante que vous avez en tête. Et c'est une sorte de danse à deux entre vous et les comédiens pour trouver une sorte d'équilibre parfait ou de point de rencontre entre cette musique intérieure et la vérité, enfin, de l'acteur. Et c'est quelque chose de vraiment très, très difficile, de très délicat, et que vous devez toujours, à mon sens, qu'il faut toujours repenser, enfin, reconsidérer film après film. J'ai pas, par exemple, une méthode que je plaquerais, qui fonctionnerait à tous les coups. Je travaille pas de la même façon avec une enfant qui n'a jamais tourné, ou avec Tim Ross, ou avec une comédienne française, adolescente. Il s'agit vraiment de trouver à chaque fois l'endroit de cette rencontre. Mais à l'arrivée, c'est quand même l'acteur, je dirais pas qu'il donne son âme au film, parce que l'âme du film, elle est pas que, enfin, c'est la rencontre entre ce que vous cherchez à exprimer et puis la face, ce qu'en fait l'acteur. Mais en tout cas, l'acteur devient quand même le film à un moment pour moi, et c'est grâce à ça que le film est une fiction.
Alors, vous parlez de musicalité de vos films. C'est vrai, vous pouvez la revendiquer, Mia Hansenlove, cette musicalité de vos films, parce que vos films sont des échappées musicales à chaque fois. Et il y a aussi, à l'intérieur de tous vos films, une musique qui est une vraie musique, qui est choisie pour nous emporter encore plus loin que ce que propose le scénario, l'incarnation des personnages, la direction d'acteurs. Et il y a à l'intérieur de votre filmographie un film qui s'intitule Eden, où la musique est le personnage principal. Alors je crois, sans rentrer dans des détails biographiques qui pourraient vous gêner, que ça raconte aussi en partie, sans dévoilement autobiographique plaqué, l'histoire de votre frère qui a vécu dans la musique. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui publiquement à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est qu'on vous doit une sacrée chandelle, parce que c'est parce que, comme tant de personnes, j'ai tellement aimé ce film, j'ai été bouleversée par la musique de ce film, et notamment par un morceau de Daft Punk qui constitue le générique de L'Heure Bleue. Mais je voudrais revenir à la musique, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avoir ce générique, et grâce à votre amitié avec les Daft Punk. Mais je voudrais revenir à l'importance de la musique comme sujet scénaristique, la musique comme emportement, la musique comme appropriation de l'être, la musique comme dérive vers un monde où on ne sait plus très bien qui on est, comment on s'appelle.
Oui, la musique est au cœur de tout pour moi, bien que je le dis très humblement, parce que je connais très mal la musique. J'ai vraiment, le niveau de mon inculture en musique est assez grave. Et en même temps, la musique m'accompagne depuis toujours, et plus spécifiquement, pour chaque film, il y a un univers musical ou un certain nombre de morceaux qui vraiment me guident, enfin me donnent le là, et jouent un rôle très très important. Parfois ces morceaux se retrouvent dans le film, parfois pas, mais ce sont des comme vous le dites, enfin ce sont des la musique donne accès à un endroit spirituel auquel seule la musique seule la musique accède, au point que c'en est même douloureux, parce que je ne sais pas si le cinéma exprime beaucoup d'autres choses, et le cinéma a aussi à voir avec la musique, comme il a à voir, je crois, avec tous les arts, et à voir aussi avec la philosophie. Mais il y a quelque chose de la musique qui est quand même unique, et je crois que c'est aussi pour ça que finalement j'en utilise, à part bien entendu dans Eden, relativement peu. C'est-à-dire que les gens sont souvent marqués par la musique dans mes films. Il y a des chansons qui marquent et dont on me parle, qui reviennent beaucoup, dont on me parle, et ça peut donner le sentiment qu'il y a beaucoup de musique dans mes films. En réalité, mes films se réduisent à ces morceaux. Enfin, je veux dire, la musique de mes films se réduit à ces morceaux, puisque je ne travaille pas avec des compositeurs. Jusqu'ici, je n'ai jamais travaillé avec un compositeur. Je n'ai jamais fait de composer de musique pour mes films. Donc, c'est toujours des morceaux préexistants qui vont surgir à certains moments. Et en fait, autour de ces morceaux, il y a beaucoup de silence. Et peut-être parce que je sacralise la musique et que j'ai un rapport tellement, enfin, très fort émotionnellement avec la musique, du coup, il ne peut pas y avoir sorte d'entre-deux pour moi avec la musique. La musique peut pas être là de façon un peu décorative pour amener un peu de rythme ou souligner une émotion, comme c'est souvent le cas dans les films où elle est souvent un peu déguisée. Enfin, elle est là sans qu'elle soit là. Je veux dire, elle est là pour aider le film, mais sans forcément qu'on l'écoute. Moi, la musique, à partir du moment où elle est là dans une scène de mes films, elle est là pleinement. C'est-à-dire que elle est là, elle est mise en scène, elle est presque regardée, quoi. Elle joue un rôle et en général, les personnages des scènes dans mes films l'écoutent avec nous.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Mia Hansen-Love, Cory Don de Matt McGinn.
Cory Don, Cory Don, Cory Don, my darling, Cory Don, my dear. Cory Don, Cory Don, Cory Don, my darling, Cory Don, my dear. Lie down, my dear, and in your ear to help you close your eye. I'll sing a song, a slumber song, a miner's lullaby. Corridum, 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 my darling, corridum, body. Corridum, 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 my darling, corridum, body. Your daddy's doom, the mine, my darling doom, and the car'll be mean. Your daddy's howking call, my darling, for his ain we win. Corridum, 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 my darling, corridum, body. Corridum, 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 my darling, corridum. There's darkness down the mine, my darling, darkness, dust and damp. But we must hae our heat or light, our fire and our lamp. Corridum, 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 my darling, corridum. Body, corridum, 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 my darling, corridum, body. Your daddy corries dun, my darling dun, and a 3 foot seam. So you can curry dun, my darling, curry dun, and dream. Curry dun, curry dun, curry dun, my darling, curry dun, my dear. Curry dun, curry dun, curry dun, my darling.
Vous avez choisi cette musique et vous avez choisi la musique de votre premier film. Tout est pardonné. Pourquoi, Mia ?
Je me suis rendu compte que je revenais toujours vers les ballades écossaises. J'ai une sorte de passion, visiblement. Enfin, je veux dire, j'en ai pris conscience à force de les mettre dans mes films. Ça revient vraiment. Il y a pratiquement pas un de mes films où il n'y a pas à un moment donné une musique, enfin une musique de folk ou une lullaby, enfin une comptine écossaise ou irlandaise, mais souvent écossaise. Et ça a commencé avec ce morceau Cory Doon de Matt McGinn que j'ai utilisé pour l'ouverture de Tout est pardonné. Et ça continue jusqu'à Bergman Island où j'ai utilisé plusieurs morceaux de Robin Williamson qui est un folk singer écossais également. Et je crois que ça a à voir avec le fait que ces musiques, pour moi, ont trait à l'enfance. Enfin, ce sont des comptines et avec quelque chose de très répétitif. Mais il y a une espèce d'innocence assez intemporelle dans cette musique qui ne cesse de me toucher. Ça m'intéressait de faire écouter ce morceau-là parce que je crois que ça a vraiment à voir avec ce qu'est le cinéma pour moi. Et au fond, il y a quand même un lien très fort pour moi entre le cinéma et l'enfance. Et en faisant des films, je crois que je cherche aussi à retrouver une certaine émotion, une certaine innocence de l'enfance.
Vous savez toujours où mettre votre caméra quand vous tournez, Mia ? Ça s'impose comme une évidence.
Oui, mais pas parce que ce serait facile et inné, parce que je passe un temps infini à sillonner les décors où
naturel,
je vais tourner.
Naturel, souvent. Parce que vos films sont des paysages.
Oui,
aussi.
J'ai jamais tourné en studio. Je crois que j'aime trop la lumière. Enfin, la lumière est trop importante pour moi et la lumière naturelle fait partie de ce qui me fait. Enfin, je veux dire, si je fais des films, c'est aussi parce que j'ai envie de filmer la lumière, les lieux. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à tourner dans des lieux souvent que je connais très bien, ou si je ne les connais pas très bien quand j'écris le scénario, du moins je les connais très bien quand j'y tourne parce que j'y passe énormément de temps. Et ce temps que je passe à sillonner beaucoup d'ailleurs avec ma script avec qui je travaille depuis que j'ai commencé à faire des films, ce temps que je passe à sillonner les décors et le temps vraiment pendant lequel le film mûrit et trouve sa forme. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et d'ailleurs, en général, je joue les scènes avec elle. Maintenant, on les photographie. Enfin, ce travail a pris de l'ampleur, mais parce que j'y prends énormément de plaisir.
Et d'assurance.
Et d'assurance, je suis quelqu'un qui doute, donc je continue de douter et j'essaye d'ailleurs d'intégrer le doute dans ma mise en scène d'une certaine façon, enfin d'en faire là encore une force. Mais en tout cas, mon langage, oui, c'est affiné ou devient forcément de plus en plus sophistiqué au fil du temps, même si au final, j'aspire toujours à une forme de simplicité ou en tout cas à donner le sentiment d'une simplicité.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien le mot de spiritualité à propos de votre métier de cinéaste. Comment le percevez-vous à l'intérieur du cinéma, ce mot de spiritualité? On rejoint Bergman, hein, on va en parler de votre nouveau film Bergman Island, mais c'est dans le sens bergmanien du terme?
Disons que, bien que je ne sois pas croyante, je ne crois pas en Dieu, j'aimerais. Mais je ne crois pas en Dieu, je ne peux croire en Dieu, du moins la question de cette quête, je peux pas dire la question de la foi parce que ce serait presque trop littéral, mais en tout cas il y a une quête de l'invisible, je crois, dans mes films. Et quand bien même mes films sont souvent très réalistes, peut-être à part Bergman Island, qui est mon film qui s'échappe le plus du réalisme, quand bien même mes films prennent une forme comme ça qui est celle du réalisme, puisque à la fois le récit, les personnages, enfin la façon de raconter des histoires s'apparente à ce qu'on peut appeler le réalisme, ce qui se joue, je crois, n'est pas juste le réel. Et il y a vraiment une quête qui est difficile à définir, mais qui est une quête de quand je dis spirituelle, des âmes aussi, dans le sens où mes films évoquent notamment souvent des personnes disparues. Et la question se pose dans mes films de savoir qu'est-ce qu'il reste de ces personnes, de quelle façon on fait vivre, est-ce que le cinéma a-t-il le pouvoir de faire revivre quelque chose des personnes disparues, est-ce que en filmant ou en refilmant ou en remettant en scène des présences qui ne sont plus, est-ce qu'on est capable d'atteindre une vérité de ce qu'ils sont, est-ce qu'on fait vivre des âmes? Ça peut paraître très naïf, mais moi je fais vraiment des films avec cette foi-là, en tout cas ce désir.
Eh bien justement, Mia Hansen-Love, nous avons trouvé dans les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel une archive d'Ingmar Bergman qui va parler de sa vision de l'âme.
And you know, another thing, when I was little boy, little child, I had very certain ideas about the soul. And I had the I saw always a soul as a big black, some sort of.
Quand j'étais enfant, j'avais des idées très précises sur l'âme. Je voyais l'âme comme un grand homme tout noir et sans figure. Et quelquefois, la figure s'entrouvrait, et c'était tout rouge à l'intérieur, et je crois que ceci est extrêmement freudien. Et l'intérieur de l'âme était toujours rouge. Peut-être est-ce naïf, je ne sais pas, mais c'est pour ça que j'aime le rouge.
Quand êtes-vous allé pour la première fois à Faro ? Faro, c'est l'île de Bergman.
Mais ça remonte, je crois que c'était en... Je ne sais plus si c'était en 2015 ou 2016, c'est effrayant parce que là, avec le Covid, enfin, j'ai un peu perdu la notion du temps et des années. Mais c'est un film vraiment qui s'est développé dans le temps. Je crois que j'ai commencé à parler de ce projet de film à mon producteur en 2014 et je crois y avoir été pour la première fois en 2015. 2-3 jours, ils m'ont invité, et comme j'avais déjà ce projet en tête, j'en ai profité pour regarder si l'île pouvait correspondre au fantasme que j'en avais, voire même m'emmener encore ailleurs. Et puis ça a été tout de suite très, très fort, et après j'y suis retournée tous
Alors,
les ans.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été très fort? Parce que quand on voit votre film, il y a aussi un coup de foudre avec le paysage. Alors évidemment, ce paysage de l'île de Faro, on le connaît par certains films de Bergman. Mais vous la rendez élégiaque, l'île. Elle est beaucoup moins austère, beaucoup moins rude, beaucoup moins fouettée par les vents que dans le cinéma de Bergman. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette douceur et cette beauté du paysage de l'île de Faro?
En fait, ce qui m'apparaît encore aujourd'hui comme un peu miraculeux dans le rapport que j'ai développé avec cette île, c'est que c'est à la fois l'île de Bergman pour moi, et ça l'est complètement, et mon plaisir de cinéaste est aussi là, dans le fait de filmer ce lieu tellement apparenté, lié à Bergman. Mais j'en ai aussi complètement fait mon île. Et c'est ça qui m'apparaît miraculeux, c'est que la présence de Bergman, ou plutôt son omniprésence, ait pu être si peu écrasante pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est bien le sujet de mon film aussi, c'est bien ce dont je veux parler. Cette île est hantée, elle est hantée par cette présence. Enfin, de mille façons. Et en même temps, je me suis sentie tout de suite chez moi, sur cette île. Et c'est quand même quelque chose d'assez inexplicable, parce que à aucun moment je ne cherche à m'approprier l'œuvre de Bergman, qui est si évidemment si loin de la mienne. Je veux dire, mes films ne n'ont jamais revendiqué d'héritage bergmanien. J'admire immensément. Je veux dire, j'ai une très très grande admiration pour le cinéma de Bergman, avec lequel je vis littéralement maintenant depuis 5 ans. Enfin, j'ai vraiment vécu avec les films de Bergman, mais pour autant, je ne cherche pas à faire du sous-cinéma de Bergman d'aucune manière. Et pour autant, j'ai eu l'impression de tout de suite trouver ma place et de me sentir chez moi avec une sorte d'évidence. Je crois que je suis vraiment aussi très très sensible à ces paysages. Il y a une beauté dans ces paysages qu'on a vu effectivement très austères, très tourmentés, très violents chez Bergman. Et en fait, Foreux est ça, mais n'est pas que ça. Il y a aussi une douceur. Et en fait, il y a une douceur extraordinaire. Et c'est ça que j'ai découvert en arrivant là-bas. C'est une île qui est envahie par les fleurs sauvages, les coquelicots, les oiseaux. Et en été, ça doit être très très rude l'hiver. Je vous avoue que j'y ai pas été l'hiver, j'ai pas eu l'occasion. Mais l'été, c'est ce qui ressort, c'est quand même quelque chose d'une immense douceur. Et cette douceur, on ne la voit pas. On ne la voit pas dans les films de Bergman. Bergman ne filme pas ça de l'île. C'est pas ce qui l'intéresse. Il filme des visages. Il filme une atmosphère qui correspond à ce qu'il est lui, enfin à ses démons. Et du coup, moi, il y avait l'espace disponible et d'une certaine façon pour moi, puisque je pouvais filmer l'île d'une manière qui n'avait pas été filmée auparavant.
Vous dites que vous êtes une amoureuse, comme tant d'entre nous, de l'œuvre d'Ingmar Bergman. Et pourtant, on a l'impression que dans votre film, il y a une distance par rapport à Bergman. Et je dirais même plus, il y a une mise en abîme à la fois du personnage de Bergman par rapport à sa femme, par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants et par rapport aussi à l'idolâtrie dont il jouit encore aujourd'hui, puisque dans l'île de Faro, il y a des séminaires sur Bergman, il y a une bibliothèque Bergman, il y a une DVD-thèque Bergman, etc. Et tout ça, vous en faites un ingrédient de votre propre scénario.
Oui, c'est vrai que je regarde ce tourisme bergmanien, je ne sais pas comment l'appeler autrement.
Oui, ben c'est
avec,
ça.
Avec, je crois, un peu d'humour et de distance, comme vous dites, mais en même temps avec beaucoup de tendresse. Et je ne crois pas, pour autant, le regarder de haut. J'ai moi-même participé au Bergman Safari. Je veux dire, j'ai eu moi-même
c'est quoi, le Bergman
plus
Safari
grand plaisir à jouer le jeu du Bergman Safari. Ben, on vous propose, pendant la Bergman Week, qui a lieu la dernière semaine de juin, de faire un petit tour en bus de Lille.
Dommage, c'est trop tard, c'est en ce moment même. Quoi.
Oui,
ça sera pour l'année prochaine.
C'est possible l'année prochaine. Et on vous propose de faire le tour de Lille et on vous montre les différents lieux où Bergman a tourné et on vous raconte, on vous explique pourquoi, comment, on vous raconte des anecdotes et on apprend de fait beaucoup. Et il y a beaucoup de gens que ça passionne et je dois avouer que j'ai pris moi-même un immense plaisir à faire ce tour. Et en même temps, si je le regarde avec cette ironie, c'est aussi parce que j'ai bien conscience que Bergman n'est pas là, que Bergman, évidemment, nous échappe complètement à ce regard et qu'on peut retourner l'île dans tous les sens, y revenir sans cesse, connaître tout de A à Z. Et d'ailleurs, il y a Bergman de A à Z aussi dans la librairie. On peut connaître toutes les entrées et néanmoins, pour autant, il reste mystérieux. Et en fait, c'est ce mystère que j'essaye de regarder à travers ce tourisme-là. C'est ce mystère de la création, c'est ce mystère de la puissance, enfin, de l'œuvre de Bergman dont je peux pas prétendre m'emparer ou posséder à travers ce film, mais que j'espère juste parvenir au moins à évoquer, je cherche aussi à transmettre, même si ce n'est pas, je crois, le motif premier du film, mais j'ai un amour du cinéma, enfin à travers le choix de placer ce film à Foreux et d'évoquer ce couple qui travaille sur les terres de Bergman, je cherche aussi à dire ce que c'est pour moi que le cinéma et l'amour du cinéma que Bergman incarne à mes yeux mieux que quiconque.
Votre film est un enchantement pour différentes raisons. La construction scénaristique qui est très délicate, l'interprétation qui est magnifique, la lumière qui est sublime.
Merci.
Et donc, il y a aussi une dimension de vaudeville. Je dirais que ce film, Bergman à Island, c'est peut-être un mix entre Marivaux et Scène de la vie conjugale. Parce qu'une des pistes, sans déflorer le plaisir qu'auront les spectatrices et les spectateurs de découvrir votre film, c'est aussi l'émancipation d'une fille qui arrive dans cette île avec son amoureux qui est cinéaste et qui est invité à faire une conférence sur Bergman, mais elle n'est pas encore quelqu'un. Et finalement, elle va prendre confiance en elle. Et donc ce film, c'est aussi vraiment l'envol d'une croyance en soi-même.
Oui, je crois qu'il est question d'émancipation, en tout cas d'émancipation artistique, l'émancipation d'une cinéaste qui au sein d'un couple peut paraître très vulnérable, très fragile et dont on va ou qui va elle-même prendre conscience d'une certaine puissance ou en tout cas de la possibilité qu'elle a d'écrire malgré tout et d'exister en tant que cinéaste et en fait c'est vrai que j'ai trouvé dès le départ très très amusant de situer ce film à l'endroit même de la puissance créatrice masculine. Et je ne crois pas du tout faire ce film pour autant contre Bergman, que à l'évidence j'adore. Enfin moi, j'adore Bergman, j'adore ses films, et même le personnage Bergman. Enfin j'ai passé, quand je vous dis que j'ai passé 5 ans avec l'œuvre de Bergman, c'est pas juste avec ses films, c'est aussi avec ses interviews. Avec Bergman a été énormément filmé sur ses tournages, et on voit d'ailleurs il semble avoir un immense plaisir à être sur les plateaux. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à voir son plaisir. Donc je veux dire, le film à aucun endroit n'est ne travaille jamais contre cette puissance masculine créatrice-là, mais en même temps, je crois qu'il y a une forme de malice, ou en tout cas, il y a chez moi un très grand plaisir à montrer comment ce personnage de femme cinéaste qui peut paraître tellement voilà fragile, vulnérable, dans l'ombre, et comment finalement, au détour d'un plan, puisque c'est vraiment au détour d'un plan que ça va se passer, va faire basculer le film, et finalement va s'approprier le film, de telle sorte que finalement, Bergman Island, ça va devenir non plus le film de Bergman ou sur Bergman, mais son film à elle. Il m'est apparu que ce décor de Foreux était vraiment le lieu parfait pour parler de cette mue-là, de cet envol-là.
Ben merci infiniment, Mia Hansen Love, et bonne chance pour Cannes.
Merci à vous.
Et c'est avec vous, de Jacques. Merci encore, Mia Hansen-Love. Je rappelle que votre film Bergman Island est dans la sélection officielle du Festival de Cannes et qu'il sortira sur les écrans le 14 juillet prochain. Au lieu d'aller au bal, je vous conseille d'aller voir le film de Mia. Merci à Élodie Royer, Louise Tempero, Céline Villegas. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec Mishka, l'ami Mishka Assayas, pour son Very Good Trip.